destiné. Alors, dans le vocabulaire, en rapport avec la thématique qui nous rassemble, les plaintes, les accusations, contestations, protestations, murmures. Bon, il y a des verbes, hein, râler, grognon, grogner, rouspéter, calomnier, médire. Donc, on va voir les signes et les manifestations du mécontentement. Cause et origines, effets et conséquences. On dira quelques mots sur le problème de la pitié de soi, et puis on essaiera de prescrire quelques remèdes. Alors bien sûr, l'histoire de la sortie d'Égypte par le peuple d'Israël et l'entrée en terre promise, c'est vraiment le prototype même des murmures, de la contestation. Et on ne va pas jeter la pierre, parce que finalement, on doit se dire que si on avait été à leur place, même si tout le monde n'était pas d'origine gauloise, on aurait probablement réagi de la même manière. Les signes et les manifestations. Alors, venons-en aux Israélites quand ils sont... Alors ça, c'était déjà pendant la traversée de la mer Rouge. Exode 14:10, le Pharaon approchait. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir des Égyptiens que de mourir au désert. » Mais les Israélites avaient la mémoire bien courte. Parce qu'à les entendre, leur condition en Égypte était préférable. Et c'est bien connu, la chèvre de M. Seguin nous le rappelle, l'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Comme si Moïse avait dû faire sortir d'Égypte et à leur corps, défendant et à l'insu de leur plein gré, les Israélites qui étaient esclaves. Comme si... la sortie d'Égypte, ce n'était pas une idée du peuple, c'était finalement une idée à Moïse. Et manifestement, les murmures n'étaient pas la bonne réponse à la situation. Parce qu'au lieu de se plaindre et de maugréer, bien sûr, ils auraient dû coopérer avec Dieu. Et on voit que les murmures, c'est un peu comme l'inquiétude, ça complique la situation. Jésus a bien dit, qui de vous, par ses inquiétudes, pourra allonger la durée de sa vie? Et chacun sait qu'au contraire, ça risque de la raccourcir. Et alors un peu plus loin, alors là, ils ont traversé la mer Rouge, ou la mer des Roseaux, miraculeusement. En Exode 15, il y a eu le beau cantique nouveau, et puis les danses de reconnaissance. Et le lendemain, j'allais dire, vous savez, parfois le dimanche, bon, on va vivre un temps très fort, hein, avec les frères, les sœurs, spirituellement. Et puis le lundi matin, c'est là où le compte à rebours, il redémarre de zéro. Hein. Et là, on voit, après la sortie d'Égypte, et la danse et les cantiques, Exode 16, verset 2, « Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. » Vous savez, quand on est responsable d'église, il faut avoir un gilet pare-balles. Parce qu'il y a toujours des, et pas seulement des snipers, qui envoient des missiles. Parfois, les gens ont un problème non résolu avec Dieu, et parfois, ils s'en prennent sur ce qu'ils ont sous la main. Et ce qui bouge. Et bien sûr, le responsable, c'est un dommage collatéral, c'est un intermédiaire. Mais enfin, verset 3, ils leur dirent, « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangions du pain à satiété? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Et verset 4, alors l'Éternel dit à Moïse, regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain, le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Entre parenthèses, vous remarquez que la frustration, le mécontentement, les plaintes ont souvent pour origine, j'allais dire, des sujets très terre-à-terre, basiques. Le pain, le vin, le boursin. Bon, le vin, c'est la cerise sur le gâteau. C'est souvent pour un besoin basique, primaire, physiologique, non satisfait, que va en découler une situation de frustration. Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, demain matin vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel. Car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous? Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. Où l'on voit que ben, c'est toujours la même histoire. Je lis encore un peu plus loin. Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin, mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le septième jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois? On a un peu l'impression parfois que c'est comme des parents avec des enfants terribles. On leur donne toutes les recommandations. T'as le droit de faire ci, t'as le droit de faire, et t'as pas le droit de faire ça. Et bien sûr, il va faire ce qu'il ne faut pas. Bon, ben, l'histoire se répète. Alors, l'amertume est un sentiment de mécontentement, de déception, de frustration qui peut aller jusqu'à l'abattement ou le désespoir. La rancune est une forme d'amertume volontaire, tenace, que l'on développe suite à ce que l'on considère être une injustice, un tort subi ou une déception. Et cela peut dégénérer en volonté de vengeance. Mais l'insatisfaction et la frustration peuvent s'exprimer de multiples manières. Et ce n'est pas une réaction émotionnelle seulement, mais pratiquement biochimique. J'ai lu que sous l'emprise ou en présence d'une situation d'insatisfaction ou de frustration, eh bien, le sujet peut bien sûr développer un syndrome de colère qui met en branle un mécanisme de défense naturelle de l'organisme. Il y a une poussée d'adrénaline qui se fait sentir dans le débit sanguin. La pression sanguine augmente, les pupilles se dilatent, les mains deviennent moites, la bouche s'assèche, les muscles prêts à fonctionner font le plein d'énergie. On a l'impression, moi j'aime beaucoup les reportages animaliers, c'est intéressant de voir la stratégie d'un prédateur. Et on voit, il y a toute une mise en condition. Mais on se rend compte que sous l'emprise ou l'empire d'un état que je décris, le sujet peut devenir un danger public. Alors l'amertume se dissimule parfois derrière la culpabilité non liquidée ou mal gérée. Et bibliquement parlant, il n'y a que la repentance ou la confession qui peut stopper net le processus. L'amertume se dissimule encore derrière l'orgueil qui cherche à compenser un coup bas encaissé mais mal digéré. L'amertume peut se dissimuler derrière un esprit de jugement et un esprit critique qui fait feu de tout bois. Et l'esprit critique, d'ailleurs, manifeste souvent une blessure sous-jacente qui n'a pas été traitée et encore moins guérie. Alors, les causes et les origines du mécontentement. Ben, il n'y a qu'à penser à un enfant qui. Vous mettez deux enfants dans un jouet, dans une salle, une pièce, et un seul jouet, Et bien sûr, il va y avoir un conflit. Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 4, dit: d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions? La passion, c'est un désir coupable, non contrôlé. Les passions qui guerroient dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas. Et puis, Jacques les traite d'adultères, de personnes écartelées entre la chair et l'esprit. La Bible nous parle de Caïn qui a mal réagi devant le fait que Dieu a accepté, ou il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur le fait que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Et Caïn en a pris ombrage. Il a fait plus, certaines versions disent, alors il s'est mis dans une grande colère et son visage s'assombrit. Dans d'autres traductions, son visage fut abattu et il devient sombre de tristesse. La Nouvelle Bible Seconde dit que Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Bon, une mauvaise réaction de Caïn qui a choisi de réagir de cette manière, par susceptibilité, orgueil, jalousie. Et l'Éternel va poser la question qui tue à Caïn. En Genèse 4, verset 6, l'Éternel dit à Caïn: pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Autrement dit, la réaction de Caïn n'est pas inéluctable. Il y a des gens qui vous diront: ah, mais de toute façon, quand on connaît mon passé, mon arrière-plan, ou l'éducation que je n'ai pas reçue, on est obligé de me donner raison dans ma manière de réagir. Bon, ben là, il n'y a plus de responsabilité. Et Caïn a choisi la mauvaise, il n'a pas appuyé sur le bon bouton. Et Dieu lui demande: mais Caïn, fais-tu bien de t'irriter? Vous remarquerez que Dieu posera exactement cette question à Élie quand il était en pleine déprime et au prophète Jonas. Et il la pose à plusieurs reprises. C'est la question qui tue, donc il n'y a pas de réponse. Revenons à l'Exode. Alors là, ils sont sortis du pays d'Égypte, ils vont traverser le désert, ils campèrent à Réphidim, là où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant: donne-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur répondit: pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel? Ma citation est tirée de la version Bible du Semeur. Dans d'autres versions, c'est: pourquoi tentez-vous l'Éternel? Mais j'aime bien la manière dont la Semeur rend cette expression: vouloir forcer la main à l'Éternel. On inverse les rôles. On n'est plus dans le rôle de la créature devant le Créateur, mais on considère que Dieu ne gère pas, comme moi je l'entends. Et il n'assure pas, donc moi je suis obligé de prendre mon destin en main, je réagis de cette manière. Alors, je reviens, le peuple prend Moïse à partie, il lui cherche querelle. Finalement, le peuple fait subir un problème non résolu avec Dieu sur Moïse et ce qu'il a sous la main. Il s'en prend à Dieu en le forçant à agir selon ses propres désirs et à réclamer comme un dû une intervention divine immédiate. Nombre 14, toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté leur dit: si seulement nous étions morts en Égypte. ou du moins dans ce désert? Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Alors voyez que quand on est dans un tel état de murmure, de plainte, on perd toute objectivité. On n'est plus rationnel. On impute aux autres, comme à Dieu, des motivations, des dispositions qu'ils n'éprouvent nullement. Et ça fausse complètement la relation, le rapport à autrui, ça fausse la perception que l'on a des autres, ça fausse la lecture de nos circonstances, et on finit par se faire un cinéma qui n'a rien à voir avec la réalité. Et là, ça craint, et c'est inquiétant. Les effets et les conséquences du mécontentement. Alors, je vais parler d'Acab tout à l'heure, qui convoitait la vigne de son voisin, et l'Écriture nous dit que Acab, il en perdit le boire et le manger. Et sa Jézabel de femme, quand elle a vu son mari dans un tel état, elle a dit, attends, moi je vais régler le problème, ni une ni deux. Et bien sûr, elle a fait liquider le voisin gênant. Quand on est mécontent, ben, ça se manifeste par des murmures. Et les murmures, c'est l'effet boomerang, ça retombe sur celui qui s'en rend coupable. Parce qu'ils aigrissent votre caractère et ils finissent par agacer votre entourage. C'est l'effet boomerang. Et les murmures, comme l'inquiétude, ça n'en rajoute pas, mais au contraire, ça finit par en retrancher. Et puis, le problème, c'est que le mécontentement, c'est pire que la grippe de Hong Kong, comme on disait autrefois. Ce qu'il faut dire maintenant comme le corona, c'est contagieux. Ça fait tache d'huile. Et l'amertume est un mal inutile que nous nous infligeons avant de l'infliger à autrui. L'amertume nous rend hypersensibles, elle nous rend susceptibles. Et elle nous porte à réagir de la mauvaise manière. L'amertume, quand elle vous tient, elle ne vous lâche plus. C'est un étau qui vous prend à la gorge. C'est corrosif. Autrefois, la blague, on disait avec le Coca-Cola, oui, tu mets une pièce de 5 francs dans un verre de Coca-Cola et 20 minutes après, il ne reste plus que 10 centimes. L'amertume, ça ronge de l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'être docteur en médecine pour savoir que ça peut donner un ulcère à l'estomac. L'amertume creuse un puits sans fond dans lequel elle vous précipite ensuite. Et la première victime que l'amertume fait est toujours celle qui s'en rend coupable. Et on comprend l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, 15, qui dit « Veillez à ce qu'aucune personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produisent des rejetons et ne causent du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Quand on se fait dévitaliser une dent, avant de se faire poser une couronne, il faut prier que le chirurgien dentiste puisse bien aller jusqu'au fond de la racine pour enlever toute trace de ce qui pourrait dégénérer en infection. Et bien là, chirurgicalement, on devrait avoir la même préoccupation pour traiter le problème de l'amertume. Dans Jacques 3,16, Jacques dit « Là où il y a de la jalousie et de la rivalité, il y a du désordre et de toutes sortes de pratiques mauvaises. » Revenons aux Israélites, nombre 11, verset 4. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. On revient à la passion qui guerroie dans nos membres, de Jacques, chapitre 4. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, de quoi nous mettre en appétit, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. » La convoitise, les mauvais désirs alimentent le réservoir des murmures. Et les Israélites se plaignaient de l'abondance de manne. Ils ont réclamé de la manne, ils en ont eu. Alors, on dit, théologiquement parlant, que parfois il y a le jugement par la frustration. Pas de manne, après trop de manne, c'est le jugement par la saturation. Et, mais il y a de l'humour. Verset 18. Tu diras au peuple, vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, ah, si seulement nous pouvions manger de la viande, nous étions si bien en Égypte, eh bien l'Éternel va vous donner de la viande à manger, pas un seul jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni même vingt jours, mais durant tout un mois, vous en mangerez, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Vous voyez, ça, il y a des proverbes ou des expressions en français qui tirent leur origine, hein, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez la nausée, car vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous et vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc avons-nous quitté l'Égypte ?» Donc, Dieu, dans sa pédagogie, use de plusieurs manières, et tantôt le jugement, ça va être le jugement par la saturation, et parfois ça va être le jugement par la frustration. Bon entendeur, salut. Et évidemment, un peu plus loin, on lit en Nombre 11, 32, « Personne n'en prit moins d'une tonne. » Verset 33, « Ils avaient encore la viande à la bouche quand la colère de l'Éternel éclata contre le peuple et il le frappa d'une grave épidémie. » On appela cet endroit Kibroth Hattava, tombeau de la convoitise, car c'est là qu'on enterra beaucoup de gens qui avaient cédé à la convoitise. Waouh ! On a coutume de dire que dans l'Ancien Testament, c'est uniquement la forme, l'extérieur. Mais attendez, le thème de l'intériorité, on le trouve déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Et vous voyez comment Dieu traitait et gérait le dossier des personnes qui étaient prises de mauvais désirs et de convoitises. Le problème de la pitié de soi. La pitié de soi, c'est un mécanisme de défense naturelle qui nous permet de nous protéger et de nous réfugier derrière le sentiment que nous avons de notre propre justice, ou lorsque nous pensons être dans notre bon droit. La pitié de soi, c'est un moyen d'affirmation de soi et de préservation de son ego, mais qui trahit quand même une certaine immaturité et qui repose sur différents mensonges. Et il faut tordre le cou à ces mythes, à ces mensonges, qui peuvent nous influencer plus que nous pouvons imaginer. Une personne, on lisait, dans le bourbier de la pitié de soi, elle n'est plus objective sur son propre état. Elle adhère à un discours mensonger qui fait du mal et qui altère sa perception des réalités. Par exemple, la vie doit me sourire. Je mérite mieux et plus que ce que j'ai actuellement. Je dois réussir tout ce que j'entretiens. Les autres doivent répondre à mes attentes et satisfaire mes besoins. Je suis une victime innocente. Il n'est pas normal que je souffre de l'injustice ou de la frustration. Dieu est injuste envers moi. Et il est même sévère. Alors peut-être que ça, si vous faites passer à quelqu'un gratuitement et sans rendez-vous un IRM, vous ne trouverez pas ce genre de tableau clinique. Mais au fin fond de nous-mêmes, on peut fonctionner avec ce genre de processeur. Surtout si on commence à comparer nos épreuves avec les bénédictions des autres. Et là, on va dire que si on nous dit que tous les hommes naissent égaux, il y en a quand même qui sont un peu plus égaux que les autres. Dieu ne m'aime pas comme moi j'entends être aimé. Je dois donc me débrouiller tout seul pour assurer et prendre mon destin en main, puisque lui n'assume pas comme il aurait dû le faire. Dieu m'abandonne à mon triste sort. Dans mon cas personnel, Dieu n'est ni bon, ni sage, ni tout-puissant. Et d'ailleurs, j'attends des preuves qu'il me montre. Et il a des comptes à me rendre. J'ai des raisons valables pour m'en vouloir à Dieu, comme à ceux qui n'ont pas rempli leur contrat envers moi. Tout à l'heure, je citais cette parole. Quand on connaît mon arrière-plan, on est obligé de me donner raison dans la manière dont je réagis dans telle ou telle situation. Et moi, je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour moi et ce qu'il me faut. Et d'ailleurs, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi m'en veulent et ne me comprennent pas. Waouh ! Je grossis un peu le trait, mais on est bien d'accord que quand on est en présence d'un tel tableau clinique, bon ben, il faut faire appel au SAMU et aux pompiers et peut-être à la gendarmerie. Élie, le prophète qui a un jour ô combien mémorable, a marqué d'une croix dans tous les agendas personnels. Élie, quand il a, après des années, des lustres d'idolâtrie, et où le culte de l'Éternel était tombé dans les oubliettes, quand il a restauré le culte, le vrai culte, au Dieu d'Israël, après un temps très fort, un roi 17 à 19, il a dévalé la pente et il a sombré dans le bourbier du découragement. Et cette parole de Jézabel, qui a voulu manifestement le faire chanter, lui a fait faire près de 200 km à pied sous le soleil brûlant de la Palestine. Et qui l'eût cru, Élie, qui en est venu à avoir comme sujet de prière, Éternel, prends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Et quand on voit Élie, l'Éternel, dans 1 Roi 19, 10, Élie qui pensait avoir toutes les raisons du monde de fuir et de sombrer dans le bourbier de la pitié de soi, il a dit à l'Éternel, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car des Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » Alors c'est clair que quand on est dans un tel état, on manque d'objectivité, et l'Éternel va bien lui faire comprendre que, un, il faut qu'il change ses verres correcteurs, qu'il teinte la réalité d'une mauvaise couleur, et puis deux, il n'est pas resté seul, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas fléchi de genoux devant Baal. Mais où l'on voit que le rapport entre la pitié de soi et la dépression est très étroit. La première alimente et sous-tend la seconde. Et la pitié de soi, c'est un levier redoutablement efficace pour parfois manipuler son entourage. Alors le remède, je vais rapidement mentionner le premier remède, c'est le pardon, une puissance qui libère. Éphésiens 4, 31-32, Paul dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie. Et vous remarquerez que dans le vocabulaire de l'apôtre, on monte en crescendo. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. On a l'impression que Paul nous dit, là, il faut sortir l'artillerie lourde. Il faut une chirurgie lourde pour éradiquer la tumeur maligne de l'amertume, de l'animosité, de la colère, de la clameur, de la calomnie. Et puis, il faut remplacer ça par « soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ ». Alors là, bien sûr, l'attitude de Joseph, elle est proverbiale et magistrale, rappelez-vous. Joseph, qui était victime, soyons clairs, et il aurait pu mettre ça sur son, dans son pédigré. Victime, il a été sur toute la ligne. Victime de la jalousie méprisante de ses frères, Genèse 37. Victime de la calomnie scandaleuse de Madame Potiphar. Victime d'une criante injustice quand il s'est retrouvé en prison. Victime de l'oubli d'un compagnon d'infortune à qui il avait pourtant rendu service en expliquant le songe selon lequel il allait être libéré. Et puis une fois libéré, loin des yeux, loin du cœur, et Joseph a été complètement oublié. La coupe était plus que pleine pour que Joseph termine sa course folle dans le bourbier de la pitié de soi, de la victime et du découragement. Or, en dépit de toutes ces circonstances aggravantes, Joseph choisit, parce que c'est un choix. Et là, il avait deux boutons devant lui, et toute la question est de savoir sur quel bouton Joseph va appuyer. Il y a le bouton rancune, le bouton amertume, le bouton c'est pas juste, volonté de vengeance, ou il y a le bouton pardon. Et bien sûr, le pardon, on le sait tous, c'est la solution la plus radicale. Évidemment, c'est celle qui coûte le plus cher. Et c'est celle à laquelle, naturellement parlant, nous sommes le moins enclins. Mais c'est ce qui a permis à Joseph de sombrer dans la pitié de soi et dans le bourbier du découragement. Et pour pouvoir dire en Genèse 50, versets 19 à 21, à ses frères, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant donc, soyez sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Ben, c'est le monde à l'envers, hein. C'est Joseph, la victime, qui va encourager et réconforter les coupables. Alors bien sûr, Jésus, Joseph est un type qui pointe, typologiquement parlant, vers Jésus. Jésus qui a été la personne qui a vécu sur cette terre ayant subi la pire des injustices. Il n'est pas pire injustice qui puisse être envisageable. Il a pu dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a pu dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, la soumission parfaite à la volonté de son Père. Chez Jésus, dans les évangiles, on trouve toutes sortes de traces comme quoi il éprouvait des émotions, des sentiments. Mais l'amertume, la rancune, non. La colère, l'indignation, oui, mais la juste et sainte colère, où il n'avait aucun intérêt personnel à défendre. C'est le péché, c'est ce qu'il a vu dans le temple, où on avait changé une maison de prière en centre commercial où on faisait du business, qui a déclenché une réaction d'indignation. Indignez-vous, hein, disait Stéphane Hessel. Et il y a des situations où les chrétiens devraient savoir s'indigner. Mais là, on parle d'autre chose. Donc, le pardon, une puissance qui libère, et puis, pour vaincre, juguler le géant de l'amertume, c'est l'amour qui a des effets miraculeux. Et dans Romains 12, versets 9 à 21, on n'a pas le temps de lire, mais Paul montre que finalement, l'amour, c'est ce qui nous permet de renoncer et d'échapper à la volonté de vengeance. Et c'est ça qui permet eh bien, de s'épargner soit un ulcère à l'estomac, soit une autre pathologie dommageable. Pour terminer, alors là on est dans les remèdes au mécontentement. Et cette parole de Hébreux 12, 15, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu ou ne se prive de la grâce de Dieu. Finalement, il y a bien des pathologies spirituelles qui sont en rapport avec une carence de grâce. C'est pas de la vitamine D, hein, mais la grâce. Et bien sûr, on sait bien que quand on n'est pas sous la grâce, on est sur le terrain marécageux et maudit de la loi, et ça fait toute la différence. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à nous ressourcer dans la grâce qui est en Jésus-Christ et à rester sur le terrain de la grâce. Veillez à ce que personne ne passe à côté ou ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. L'apôtre Jacques, au chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Les Israélites, quand ils ont choisi de murmurer, de se plaindre, ils étaient en révolte contre Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a des gens qui voient le diable partout et qui croient devoir exercer un don de délivrance, de guérison, et qui vont chasser les démons même là où il n'y en a pas. Mais il faut garder les pieds sur terre. Et Jacques est très réaliste. Arrête d'en faire à ta propre tête. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Il va t'équiper pour que tu puisses résister au diable. Et puis de lui-même, il va fuir. Tu n'as pas besoin de le déloger. Verset 8. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur ou humiliez-vous et il vous relèvera. On parlera plus en détail demain de cette parole qui est facile à citer, mais de Philippiens 4, 12 et 13. Où Paul dit « Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre dans l'abondance, c'est le secret que j'ai appris. » Et le langage qu'il utilise ici, c'est un langage technique que l'on trouve dans les rites d'initiation, dans certaines sectes, qui vous donnent accès à une certaine connaissance réservée aux seuls initiés. Et ça ne s'improvise pas, c'est un cheminement, il y a tout un apprentissage, et Paul peut dire, c'est le secret que moi j'ai appris, à savoir m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Un jour dans une église, j'ai rencontré un frère qui m'a dit, moi je n'attends rien des autres, maintenant si les autres veulent me faire quelque chose de sympa, waouh, c'est ma surprise de la journée, c'est cadeau. Waouh, c'est un peu hard, hein, je vous l'accorde, mais au moins, il a plus de chances, enfin, il a peu de chances de tomber de haut, hein, parce que souvent, quand on met la barre haute, on attend beaucoup des autres et qu'on a très peu, plus dure sera la chute. L'apôtre Paul, quand il parle, il met en contraste la plénitude du Saint-Esprit avec l'ivresse alcoolique. Vous connaissez bien ce texte. Remarquez, sous la question de fond est de savoir qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui anime la personne. Alors, bien sûr, aujourd'hui, des produits stupéfiants et l'alcool ou des produits psychotropes qui ont des effets psychoactifs, ça peut être un moyen de motiver une personne. Alors sous l'empire de l'ivresse alcoolique comme sous l'empire de l'ivresse pneumatique, on va dire, la plénitude du Saint-Esprit, il y a un point commun, dans un cas comme dans l'autre on a envie de chanter, mais ce n'est pas la même chanson. Si d'un côté on chante, d'aucuns vont chanter la Marseillaise en breton, de l'autre côté on va chanter dans À toi la gloire ou J'aime l'éternité. Alors, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, donc c'est un ordre, c'est un commandement. Et on va voir que le contentement, c'est pas une option, c'est un commandement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est rempli de l'esprit? Verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. spécialistes nous disent que là, les termes utilisés font référence à la louange communautaire. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de retrouver les frères et les sœurs, ben, surtout après les mois de confinement, hein, pour chanter ensemble les louanges du Seigneur. Deuxième manifestation de la plénitude du Saint-Esprit par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je peux être fâché avec la musique, je peux ne pas savoir faire la différence entre un do et un mi, mais dans le secret de ma salle de bain sous ma douche, je peux chanter et louer l'Éternel de tout mon cœur. Voilà la deuxième chose qui se passe quand je suis rempli de l'Esprit. La troisième chose, verset 20, rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La reconnaissance. Où l'on voit que les jérémiades, les plaintes, les murmures, bon, c'est pas seulement Jérémie, hein, mais c'est quand on n'est pas animé par le Saint-Esprit. Et on va en reparler, mais on va dire que finalement, on doit apprendre à rendre grâce jusqu'à... Pardon, on doit apprendre à devenir reconnaissant jusqu'à ce que je rende grâce. Ou trop souvent, on pense, tant que je ne suis pas reconnaissant, je ne peux pas rendre grâce. Et puis, la quatrième conséquence de la plénitude du Saint-Esprit, nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quand je suis rempli d'esprit, je trouve ma juste place dans mon rapport à autrui. Et d'ailleurs, dans les versets qui suivent, Paul va dire, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises, enfants, obéissez à vos parents, salariés, respectez vos employeurs, etc., etc. Bon, il faut terminer cette prière qui trahit une certaine sagesse. Seigneur, accorde-moi le courage de changer ce que je peux encore changer. Donne-moi la grâce de savoir accepter les choses que je ne peux plus changer. Je crois que c'est Walter Trobisch qui a écrit un livre, Vivre avec des désirs insatisfaits. Pas subir ni se résigner, mais vivre avec des désirs insatisfaits. Donne-moi la grâce de savoir accepter les choses que je ne peux plus changer et donne-moi la sagesse pour savoir faire la différence entre les deux.